l'écoute de Radio France Internationale, il est 23h ici à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Et prenez donc place pour votre demi-heure d'informations consacrée à l'actualité française. Ravi de vous accueillir.
Martin Guez.
Premier jour de cessez-le-feu au Liban, arrêt des combats entre Israël et le Hezbollah libanais. Vécu comme une victoire diplomatique par la France. La France qui pourrait offrir une immunité au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et ce malgré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Une décision qui provoque de vives réactions politiques. Le Premier ministre Michel Barnier apparaît lui en sursis, l'ombre d'une motion de censure plane. L'actuel locataire de Matignon qui poursuit ses consultations. Enfin, cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Bilan très terne pour les clubs français. Seuls les Lillois ont le sourire. Dans la deuxième partie de 24 ans en France, nous recevrons l'une des actrices du film Rabia qui retrace le parcours d'une jeune Française embrigadée par des djihadistes en Syrie. Nous irons sur les routes parisiennes où la cohabitation entre vélo, voiture et piéton est très difficile dans notre reportage. Avant le journal de l'Outre-mer et le Conseil Santé. 24 ans en France, vous avez le programme, c'est parti.
RFI.
Et avant de développer ces titres, l'ensemble de la rédaction de RFI présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Marine Vlahovic. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre consoeur, survenu lundi à Marseille, où elle vivait. Marine était notre correspondante dans les territoires palestiniens occupés entre 2016 et 2019. Elle avait ensuite publié notamment une série de podcasts sur Arte Radio, Carnet de correspondance, 6 épisodes retraçant le travail et la vie quotidienne de journalistes sur le terrain. Marine Vlahovic avait 39 ans. Marine qui avait également travaillé au Liban. Elle avait signé un documentaire audio, toujours sur Arte Radio, intitulé « Le souffle de Beyrouth ». Et ce mercredi, le souffle des explosions et des avions israéliens a cessé au Liban. Premier jour de cessez-le-feu après 14 mois de conflit et 2 mois de guerre ouverte entre Israël et le Hezbollah libanais. Des milliers d'habitants qui quittent leurs abris et qui regagnent leur maison. Cet accord doit ouvrir la voie à un cessez-le-feu trop longtemps attendu à Gaza, estime aujourd'hui le président français Emmanuel Macron. Paris et Washington qui ont activement œuvré à la mise en place de l'arrêt des combats au Liban. Un vrai succès pour la diplomatie française. Le chef de l'État qui a d'ailleurs immédiatement enregistré un message diffusé sur les réseaux sociaux pour saluer cette avancée. Valérie Gasse.
Benjamin Netanyahou voulait exclure la France des discussions sur le cessez-le-feu, mais les autorités libanaises ont insisté pour que Paris reste dans le jeu du processus de négociation engagé depuis des mois avec les États-Unis, dans lequel la France a l'avantage de pouvoir parler au Hezbollah. Et ces derniers jours, Emmanuel Macron s'est entretenu avec toutes les parties impliquées, Benjamin Netanyahou inclus, qui a interrogé le président français sur l'application du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale émis récemment à son encontre. La France respecte ses obligations, mais un juge peut décider d'accorder l'immunité à un chef d'État. Une réponse qui a fait baisser la tension avec le premier ministre israélien. Après des semaines d'échanges acerbes entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, qui donnait l'impression qu'un point de non-retour avait été atteint entre les deux dirigeants. La France endosse donc avec les États-Unis le rôle de parrain de l'accord sur le Liban. Joe Biden a remercié Emmanuel Macron pour son implication. Le chef de l'État, auquel on reprochait son message brouillé sur le Proche-Orient, sort recrédibilisé de cette séquence avant une visite d'État en Arabie Saoudite la semaine prochaine, durant laquelle il aura l'occasion d'évoquer l'autre conflit dans la région, celui de Gaza.
Benjamin Netanyahou, qui a donc vu la France ce mercredi lui accorder une immunité, comme l'expliquait Valérie, et ce en dépit du mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. Contrairement à l'Italie et au Royaume-Uni, par exemple, autres pays signataires du statut de Rome qui ont immédiatement annoncé qu'ils respectaient leur engagement auprès de la CPI. La France qui entend continuer à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre israélien, selon un communiqué du ministère français des Affaires étrangères, sans donner plus de détails sur une éventuelle visite de Benjamin Netanyahou en France ou de son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, également visé par un mandat de la CPI. Une décision qui a suscité de vives réactions parmi les oppositions politiques qui ont dénoncé la réponse du chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot. Vive réaction notamment de la députée écologiste Sandrine Rousseau.
C'est vraiment le bateau ivre de la France dans ce conflit entre Israël et Gaza. C'est qu'on ne sait pas où se situe la France. En fait, la France, historiquement, a eu une position extrêmement claire, notamment par la voix de Chirac, dont on sait quand même que je ne suis pas le premier soutien. Je ne comprends pas ces revirements de la France. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut avoir une voix forte, une voix ferme, qui est de dire que toutes les décisions des instances internationales s'appliqueront sur notre sol et que nous les ferons appliquer ailleurs dans le monde autant qu'il nous est possible de le faire.
Et de leur côté, plusieurs ONG ont dénoncé une position choquante de la part de la France, comme Human Rights Watch et Amnesty International, rappelant que les mandats d'arrêt de la CPI n'étaient pas négociables.
24 heures en France.
L'actualité politique, toujours, les jours de Michel Barnier à Matignon sont-ils comptés? Après quelques semaines à la tête du gouvernement français, le Premier ministre voit poindre la menace de plus en plus pressante d'une motion de censure. Michel Barnier, qui devrait avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer sa très impopulaire loi de finances, c'est-à-dire qu'il ne passerait pas par un vote des députés. Des députés qui pourront en retour décider de renverser le gouvernement Barnier. En tout cas, 5 mois après la dissolution de l'Assemblée et les élections législatives du mois de juillet, les citoyens français sont, eux, totalement déboussolés.
S'il y a une censure, c'est le jeu démocratique. Et j'ai élu des représentants et je compte sur eux pour défendre des idées auxquelles je souscris.
Pour moi, c'est de l'ordre du fantasme. Et de toute façon, ça ne change rien. Et même si derrière, on avait encore un nouveau gouvernement, il ne se passera rien non jusqu'à la fin du mandat, c'est sûr.
Je trouve ça lamentable que des gens dont le métier c'est de gouverner la France s'amusent à des querelles intestines. C'est des gros débiles. On ne devrait même pas voter pour eux, quoi.
C'est des oppositions qui ne servent pas à grand-chose. C'est des batailles politiciennes. Et au final, ça dessert le français, le citoyen. C'est jamais dans notre intérêt.
De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire. Le gouvernement a été proposé. Ils ont déjà mis assez de temps comme ça pour le faire. S'il doit se redéfaire, en un mot, c'est un peu la merde.
Alors, moi, j'en ai rien à foutre. Tout plonge en ce moment, la bourse a dégringole, on perd du pognon. Il va y avoir une censure, hein, c'est sûr. Hein. S'il faut recommencer, on recommencera.
La censure, c'est sûr, ou peut-être pas, des propos recueillis au micro RFI d'Amélie Beaucourt. Michel Barnier, justement, qui abat ses dernières cartes. Le Premier ministre qui continue ses consultations avec les présidents des différents groupes parlementaires. Il recevait aujourd'hui les ténors du Parti Socialiste, des élus de gauche qui ont un rôle clé dans l'adoption ou non d'une future motion de censure. Michel Barnier qui a tenté de trouver un compromis avec les socialistes. Charlotte Turien-Tomaca.
Une petite heure d'entretien et les deux présidents de groupe sont ressortis plutôt en colère, comme ils l'ont fait savoir à l'issue de leur entrevue avec le Premier ministre. Chacun campe sur ses positions et pour Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée, Michel Barnier ne tire aucun enseignement et ne propose pas grand-chose.
La responsabilité n'a pas été du côté de ceux qui la revendiquent. Ils ont été dans le refus de tirer la moindre leçon de la sanction de la politique qui avait été conduite depuis plusieurs années par Emmanuel Macron.
Même son de cloche pour le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner attend toujours une main tendue de la part du Premier ministre et estime qu'ils n'ont pas à être les otages de cette situation politique.
Aucun geste sérieux n'a été fait en direction des groupes de gauche. Et nous n'accepterons jamais le chantage qui pourrait nous être fait et que nous entendons, y compris dans les propos de membres du gouvernement, laissant entendre que finalement la responsabilité de garder ou de faire tomber le gouvernement reposerait sur les épaules du Parti socialiste.
Boris Vallaud refuse également de céder à la pression du gouvernement en cas d'absence de budget.
Il y aura évidemment, d'une manière ou d'une autre, un budget à Noël, même si c'est par reconduction. Les fonctionnaires seront payés.
À ce stade, la réponse des deux élus de gauche est bien de voter la censure en cas de déclenchement de l'article 49.3.
L'actualité économique à présent dans 24 heures en France, c'est les producteurs français de vin et de spiritueux très inquiets des mesures protectionnistes annoncées par Donald Trump, le futur président des États-Unis, qui veut taxer les importations à hauteur de 25% pour les produits mexicains et canadiens, mais aussi sur les produits chinois et l'Europe qui n'est pas encore dans le viseur. Mais la filière viticole française qui s'inquiète déjà, Anishka Kumor.
Les producteurs français craignent d'être victimes de la nouvelle guerre commerciale, estime Gabriel Picard du groupe Vins et Spiritueux Picard, président de la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France.
Il y a toujours beaucoup de surprises possibles avec M. Trump. S'il y a une taxe de l'ordre de 10% à la liberté de chacune des entreprises de voir ce qu'elle peut faire, si c'est une taxe de 50 ou de 100%, ça veut dire que c'est punitif et que le marché est définitivement fermé.
Les États-Unis restent le premier marché d'exportation pour les alcools français. Impossible de le perdre, martèle Gabriel Picard.
Ce qu'on essaye de faire, et on a déjà commencé à le faire, c'est de travailler le plus en proximité possible avec les équipes du président Trump pour que les incompréhensions ou que les sujets possibles de discussion soient expliqués. Et à partir de là, d'arriver à trouver des solutions qui soient les plus favorables pour eux et pour nous.
Les producteurs n'oublient pas la précédente taxe Trump imposée en 2019. À l'époque, la filière viticole française avait accusé 600 millions d'euros de pertes. Suspendue par Joe Biden, cette taxe de 25% reste telle l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des vignerons français.
Et puis des nouvelles du dictionnaire français qui provoquent la colère de la Ligue des droits de l'homme, la LDH, qui appelle à rectifier d'urgence la définition de plusieurs mots du nouveau dictionnaire de l'Académie française. Des mots comme négrillon, race ou encore femme. La LDH qui dit sa consternation quant à la vision du monde archaïque promue par l'ouvrage, notamment par la voix de son président, Patrick Baudouin.
On lit « Un négrillon est un petit enfant noir ». On vous dit que « jaune » se dit d'une personne ou d'une population caractérisée notamment par la pigmentation jaune ou cuivrée de la peau, par opposition à blanc et à noir, un homme de race jaune. Une personne négroïde présente certaines des caractéristiques morphologiques des populations noires, comme si il y avait des différenciations entre les êtres humains. Ça crée vraiment des débuts de discrimination dans les définitions mêmes. Aucune de ces définitions, telles que je viens de les rappeler, n'est signalée comme étant péjorative ou discriminante. Donc nous demandons vraiment avec force de revoir ces définitions, de supprimer des définitions semblables.
Patrick Baudouin, le président de la LDH, interrogé par Olivier Sherman du service France de RFI. Et puis comme promis, on termine par du football. Suite et fin de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Et après deux défaites pour Brest et Paris hier, Monaco et Lille étaient en piste ce soir. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Martin.
Alors heureusement, il y avait les Lillois pour redorer un petit peu le bilan de la France cette semaine.
Ouais, l'éclaircie, elle vient de Lille, ou plutôt de Bologne, où le LOSC s'est imposé. 2-1, 2 buts de Galayel Mouko, tout jeune milieu défensif de 20 ans, international congolais. Ce sont ses deux premiers buts d'ailleurs sous le maillot lillois.
Ouais.
Belle pépite et belle victoire pour Lille qui avec 10 points se replace à la 12e place de cette Ligue des Champions. Monaco est à 10 points aussi, mais on fait plutôt la soupe à la grimace là-bas. On reste scotché.
Même pour Thomas Saint-Léger qui est bien
ouais, bon, on va le dire à tout le monde, voilà. Monaco qui s'est incliné à domicile face au Benfica Lisbonne. Les Monégasques avaient bien commencé. Le but de Ben Seguir, ils se sont complètement sabordés ensuite avec une énorme erreur défensive, puis un carton rouge reçu par Singo. Les Lisboètes en profitent. Ils s'imposent donc 3-2, à noter les deux beaux coups de patte de Di Maria, des centres magnifiques pour ces attaquants. Un autre qui s'est distingué bien malgré lui, c'est Kylian Mbappé. Martin, un penalty manqué, ça va mal pour lui, ça va mal pour le Real qui a perdu 2-0 à Liverpool, qui est 24e de cette Ligue des Champions.
Tout juste la dernière place pour se qualifier. Merci beaucoup Thomas de Saint-Léger d'avoir été avec nous dans 24 heures en France. C'est ainsi que se termine ce journal, mais restez avec nous. Tout de suite, place à notre invité.
24 heures en France. Martin Guez.
Notre invité du soir s'appelle Madame, au moins dans le film Rabia, sorti ce mercredi. Une grande dame dont il faut se méfier, incarnée par l'actrice belge Lubna Zabal. Rabia qui raconte le parcours de Jessica, jeune française de 19 ans, partie en Syrie, rejoindre Daesh. Arrivée à Raqqa, la voilà qui intègre une mafada, une maison de futures épouses de combattants. La voilà surtout prisonnière de Madame, l'implacable directrice qui tient les lieux d'une main de fer. Madame, incarnée par Lubna Zabal, invitée ce soir d'Elisabeth Le Carré.
Installez-vous ici, c'est le coin des Françaises.
Vous l'avez déjà vue ?
Madame ?
Ouais.
Si Allah il devait avoir une femme, ce serait elle.
Lubna Zabal, bonjour.
Bonjour.
Dans Rabia, vous êtes la patronne d'une madafa, donc ces maisons où sont enfermées les femmes célibataires ou veuves en attente d'être mariées. Donc c'est le hors-champ de la guerre, puisque de toute façon le point de vue des femmes est souvent hors-champ. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à dire oui ?
Oui, bah, d'abord après avoir rencontré Marieke, avoir eu une longue discussion avec elle. Et puis, j'ai vu qu'elle était vachement documentée, que c'était basé sur des faits réels, des rencontres. Et puis, le personnage qu'elle me proposait, celui de Madame, qui existe bel et bien dans la réalité. Et c'était quelqu'un que je connaissais à travers les journaux.
Qui s'appelle Adam, qui est marocaine.
Elle s'appelle Fatiha Medjahati, qui est d'origine marocaine.
Et alors, qu'est-ce que c'est une madame dans ce lieu très particulier ? Parce que c'est à la fois une prison, une maison close, une auberge de jeunesse. En fait, c'est là qu'on reçoit toutes ces jeunes femmes venues d'Europe et au-delà qui veulent rejoindre Daesh.
Je crois que c'est en plusieurs étapes. Au départ, c'est un peu comme une auberge jeunesse. C'est un peu l'auberge espagnole, d'ailleurs. Elles arrivent de toutes parts. Ça parle anglais, français, espagnol, arabe, enfin, italien, anglais. Et puis après, ben, on les marie. Et en fait, au final du final, c'est une maison à génitrice, quoi. Donc en fait, c'est pour agrandir ce qu'on appelle la Oumma.
La communauté des croyants.
La communauté des croyants, voilà. Pour fabriquer ce fameux État islamique.
Qu'est-ce qui t'arrive, Oumma Bien ? Est-ce que tu aurais oublié les règles ? Rentrer en France ? Ici, c'est un plus grand destin qui t'attend.
Et celle qui dirige tout ça, c'est votre personnage, madame Lumna Azabal. Comment on entre dans ce personnage? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui construit une biographie? Est-ce qu'on lui construit une psychologie?
C'est un panel, donc je prends un tas d'informations qui pourraient m'aider à me nourrir. Et elle, j'ai quand même énormément... J'ai recherché tous les articles possibles, imaginaux autour d'elle, dans les journaux arabes de l'époque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'incarnation du mal. C'est pas un bourreau comme les autres, cette madame. Parce qu'il y a par exemple le personnage de Jessica, qui est incarné magnifiquement par Megan Nordam, qui devient bourreau dans le film. Mais elle devient bourreau, c'est un mélange de syndrome de Stockholm, d'instinct de survie, de s'asservir total à cette madame jusqu'à devenir pratiquement son bras droit. Mais elle a de l'humanité encore dans le regard.
C'est un animal à sang chaud, alors que votre personnage est plus nuancé.
Pour moi, c'est une psychopathe. Elle a quelque chose. Elle n'a pas d'empathie. Elle ne ressent pas la douleur de l'autre.
Comment on entre dans la peau d'une psychopathe, Lumna Azabal?
En fait, on s'enferme. Et puis, petit à petit, j'ai réfléchi beaucoup. Et après, j'ai pour sortir de ça, non, j'ai qu'une seule envie, c'est de... Je me mets en sas de décompression pendant quelques jours. J'ai besoin de revider tout ce que j'ai emmagasiné, tout ce que j'ai appris en moi, pour après redevenir moi, vraiment moi, voir mes potes, boire des coups, sortir, faire des grosses bouffes et faire ce que j'aime, la fête en fait. Voilà.
Lumna Azabal, merci beaucoup.
Merci à vous, RFI.
Lumna Azabal, au micro d'Elisabeth Le Quiré, et à l'affiche de Rabia, le nouveau film de la réalisatrice allemande Marie-Heike Engelgart, en salle ce mercredi. C'était le 15 octobre dernier, à Paris, un accrochage comme il y en a tous les jours sur les routes de la capitale, qui vire cette fois-ci au drame. Paul, jeune cycliste de 27 ans, meurt écrasé sous les roues d'un SUV, ce qui avait provoqué une vive émotion. Paul étant par ailleurs un militant convaincu de la pratique du vélo. Le conducteur du véhicule était depuis arrêté, mais le débat est lancé. Comment se partager la chaussée entre automobilistes, cyclistes et piétons, forcément plus fragiles et vulnérables en cas d'accident? Paris réfléchit à interdire les SUV, les automobilistes réclament, eux, plus de civisme. Reportage au bord des routes parisiennes d'Aram Beng.
Entre les automobilistes et les cyclistes parisiens, le torchon brûle. Pour les premiers, les cyclistes ne respectent quasiment jamais le code de la route, comme l'indique Pierre Chasseret, directeur général de l'association 40 millions d'automobilistes.
Ce qui me paraît essentiel, c'est qu'on ait une politique un petit peu plus forte sur le respect du code de la route. Là, regardez, quelqu'un passe à vélo, elle est sur son smartphone, ça c'est 135 €. Elle a des oreillettes, c'est 135 €. Regardez, à côté, une trottinette, il est sur le trottoir. C'est verbalisable. Il faudrait que politiquement, on arrive à peut-être plus de verbalisation sur les usagers cyclistes. Ça serait pas mal.
Et du côté des cyclistes, on déplore les violences des automobilistes. Alexis Frémaux, co-président de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette.
Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est les violences volontaires envers les cyclistes sur les routes. On aimerait que la police, la justice, commence à réagir parce qu'il faut mettre fin à l'impunité, c'est-à-dire il faut poursuivre quand il y a des violences systématiquement.
Et aussi mettre en place des aménagements clairs. C'est un point sur lequel insiste Marion Soulet, porte-parole de l'association Paris en Selle.
Il faut des aménagements, équiper les grands axes de pistes cyclables. Il faut faire attention aussi aux intersections. Ce qu'on demande, c'est qu'ils soient aménagés pour que, justement, on soit moins dangereux pour les cyclistes. Les cyclistes sont des usagers vulnérables. Il faut des aménagements parce que c'est ça qui protège de la plupart des accidents. Mais il faut aussi qu'on fasse les bons aménagements.
Mais même avec de bons aménagements, la méconnaissance des nouvelles règles de circulation soulève également des tensions. Cécile Reynaud, responsable de l'antenne de l'association Mieux se déplacer à bicyclette à Palaiseau, près de Paris.
Il y a eu des nouveautés dans le code de la route et parfois les conducteurs, que ce soit à vélo ou en voiture, des fois ne les connaissent pas. Par exemple, là devant nous, il y a un feu avec un panneau M12, un cédé le passage. Ici, ça m'est déjà arrivé de me faire klaxonner et coincer par une dame en voiture qui voulait me faire savoir que j'avais grillé le feu et du coup me mettait en grand danger pour me punir de cette infraction imaginaire puisqu'il y avait ce panneau qui m'autorisait à passer. Il n'y avait pas de piétons, pas d'autres voitures, je pouvais passer. Donc la dame ne connaissait pas ces panneaux en fait. Ils existent depuis plus de 10 ans mais elle n'en avait jamais entendu parler. Du coup, elle pensait qu'elle pouvait et me punir de cette infraction imaginaire.
Une mission contre la violence routière a été mise en place après le décès d'un cycliste tué à Paris par un automobiliste. Autorités et associations réfléchissent ensemble pour mettre en place des mesures de protection pour tous ceux qui partagent la route, notamment les plus vulnérables comme les piétons et les cyclistes.
Reportage signé ce soir à Rambeng.
Le journal des Outre-mer.
En Martinique, impossible ou presque de trouver une déchetterie ouverte. C'est au menu du journal de l'Outre-mer qui débute ce soir à La Réunion, au lendemain d'un horrible fait divers, à la une du journal d'Alex Léveillé. Bonsoir Alex.
Madame, Monsieur, bonsoir. La Réunion sous le choc après la mort de trois membres d'une même famille aux avirons. Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre. Suzette Emma de Réunion, la première.
Les trois corps ont été découverts dans un cabanon qui jouxte une maison rue du Stade aux avirons. Deux fillettes de 4 et 7 ans, scolarisées sur la commune, gisaient à côté du cadavre de leur papa. C'est ce dernier qui les aurait tués avant de se donner la mort. Un drame conjugal. Le couple devait se séparer. Le père aurait texté sa femme à plusieurs reprises. Devant la teneur des messages alarmants, la maman, enseignante au port, a prévenu les gendarmes. À l'annonce de la nouvelle, en état de choc, elle a été hospitalisée. Un drame familial qui touche toute une petite ville. Le maire et le rectorat ont décidé la mise en place d'une cellule psychologique. Côté pénal, avec le décès du meurtrier présumé, l'action publique serait éteinte.
Sujet thème de Réunion la première. Direction Mayotte, l'un des départements français le plus touché par le sida. C'est ce qui ressort de l'étude menée par Santé publique France en 2023. L'Agence nationale de santé souhaite ainsi intensifier les efforts de prévention et de dépistage. Taslima Amdou Hamza de Mayotte la première.
Des chiffres alarmants. Mayotte est le deuxième département français le plus touché par le VIH après la Guyane. En 2023, le taux de découverte de séropositivité atteignait 296 cas par million d'habitants, près de deux fois celui de l'Île-de-France. Malgré une légère baisse, la situation reste préoccupante, avec 92 nouvelles découvertes et 37 infections estimées. Près de 140 personnes sur l'île ne connaissent pas encore leur statut sérologique. En moyenne, il faut 2 ans pour qu'une infection soit diagnostiquée, ce qui montre l'urgence d'intensifier les dépistages. Les femmes représentent 64% des nouveaux cas, soit deux fois plus qu'en France hexagonale. Cela concerne surtout les 25 à 49 ans dépistés pendant la grossesse, tandis que les jeunes femmes de 15 à 24 ans restent sous-dépistées. Le dépistage global reste faible avec seulement 26,9 tests pour 1000 habitants, bien en dessous des autres départements d'outre-mer. La transmission est majoritairement hétérosexuelle, 87%, et une grande partie des cas concernent des personnes originaires des Comores et de Madagascar. Santé publique France alerte aussi sur l'augmentation des co-infections avec d'autres IST qui touchent 35% des cas. Ces données alertent sur l'urgence de la situation à Mayotte, renforcer les actions de prévention, mais aussi intensifier les dépistages.
Direction l'île de la Martinique maintenant, où plusieurs déchetteries sont fermées en cause. Des décharges sauvages empêchent les camions de passer ou d'ouvrir les portes. Les usagers, eux, sont à bout. Xavier Chevalier de Martinique, la première.
Les décharges sauvages se multiplient. La faute, entre autres, à des déchetteries pour la plupart fermées. Lucas, qui travaille dans le tourisme, est énervé. Le jeune homme a loué un camion pour la journée et fait un grand ménage. Il a plus de 500 kilos à jeter.
À chaque fois qu'on va à la déchetterie, on se pose toujours des questions. Est-ce que c'est ouvert déjà? Ok. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y aura une benne? Est-ce que les gens vont bien nous accueillir? On arrive, il y a toujours 10 mecs assis. Bon, ok, ils nous accueillent. Bon, ils font leur boulot quand même. Mais aujourd'hui, là, on est confronté à un problème récurrent en Martinique. Et il n'y a aucune solution. On nous a dit d'aller à Sainte-Luce. Sainte-Luce, finalement, c'est barré. On nous a dit d'aller au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est mort. On nous a dit d'aller au François. François, c'est mort. Château-Bœuf, cette déchetterie-là ne prend jamais rien. Enfin bon, wow.
La faute à une montagne de déchets déversés devant le site. Au Robert et au Saint-Esprit, les agents sont présents, mais personne ne peut rentrer. Des encombrants sont présents sur la route du SMTVD, rendant difficile, presque impossible, la circulation des camions. Manuel Vadius.
Sur place, des équipements, donc on voit un petit peu avec les différents services
pour pouvoir mettre en œuvre les moyens pour pouvoir évacuer ces dépôts sauvages. Malheureusement, c'est quand même un peu déplorable qu'on arrive à ce point alors qu'il y a des sites qui sont ouverts pour pouvoir justement traiter et valoriser les déchets.
La situation devrait s'améliorer, d'après le SMTVD, d'ici le début de la semaine prochaine. Mais aucun des usagers n'y croit.
Xavier Chevalier de Martinique, la première, et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.
Merci Alex Léveillé, excellente soirée à vous aussi, mais restez bien à l'écoute. 24 ans en France continue sur RFI.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux.
RFI, les 23h24, ici à Paris, c'est l'heure de retrouver Caroline Paris.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Caroline Paré qui reçoit ce soir le professeur Nicolas Vignier pour parler des différents types de palus.
Professeur Nicolas Vignier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Avicenne à PHP de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il existe plusieurs formes de paludisme grave? Et si oui, quels en sont les principaux symptômes?
Alors le paludisme, c'est une maladie qui est due à un parasite qui est transmis par le moustique Anopheles, et dans certains cas, en effet, ça peut donner des formes graves. Il y a plusieurs symptômes qui sont possibles, mais la forme la plus classique, c'est une atteinte neurologique, hein, c'est-à-dire qu'on va perdre conscience et ça peut entraîner des complications jusqu'à la mort. Mais c'est pas la seule atteinte possible du paludisme grave. En fait, tous les organes peuvent être touchés. On peut avoir une anémie profonde, hein, des globules rouges très bas. On peut avoir une défaillance du rein, de la respiration, du foie. Et donc, c'est une maladie qui peut en effet donner tout un range de symptômes graves.
Alors, est-ce que certaines personnes sont plus vulnérables à ces formes sévères?
Oui, toutes les personnes qui ont déjà des comorbidités, donc qui ont d'autres pathologies, évidemment, les pathologies peuvent se décompenser. Et puis, les enfants en bas âge sont particulièrement vulnérables au paludisme grave, notamment parce que dans les zones d'endémie, ils n'ont pas été beaucoup exposés aux parasites, donc ils n'ont pas d'immunité pour les protéger, et c'est eux qui font le plus de formes graves.
Merci, professeur Nicolas Vignier. Aujourd'hui, on va parler de la santé et des soins des cheveux, du cuir chevelu dans l'émission Pelade, alopécie, conséquences du défrisage. Des spécialistes de la santé capillaire à votre écoute. Et pour leur poser vos questions, notre numéro WhatsApp, le 33 7 61 18 46 41. On se retrouve à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Et c'est bien noté. Merci Caroline Paré. Voilà, 24 ans en France, c'est terminé. Merci à Fabulous Fab, Fabrice Viollet à la réalisation, François Ballarin et Vanda Marsadi à la rédaction en chef. Dans quelques instants, vous retrouverez Sylvie Berruet pour la dernière édition d'Afrique Soir. Nous reviendrons notamment sur cette journée d'élection en Namibie et sur un voyage d'État à venir de 3 jours du président nigérian en France. Une première depuis l'an 2000. Mais avant l'info africaine, nous, on file à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et la bourse, c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones, après une série de records ces derniers jours, perd 138 points aujourd'hui et revient à 44 722. L'indice du Nasdaq recule de 115 points pour clôturer à 19 060. Le marché obligataire est mieux orienté. Le rendement du T-bond à 10 ans retombe ainsi à 4,25. L'estimation de l'inflation pour le mois d'octobre aux États-Unis est en gros conforme aux anticipations. L'indice des prix des dépenses personnelles de consommation grimpe de 0,2% en octobre. La même hausse s'était produite en septembre. Toutefois, le gain est de 0,3% si l'on ne tient pas compte des prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires. Et voilà qui porte à 2,8% le noyau de l'inflation américaine pour les 12 derniers mois, ce qui dépasse l'objectif de moyen terme de la Banque centrale américaine. Les investisseurs ont conclu que la tendance à la désinflation aux États-Unis s'est arrêtée à un niveau qui n'est pas alarmant, mais qui néanmoins est préoccupant. La Réserve fédérale pourra juger qu'elle peut encore abaisser son taux directeur de 0,25% lors de la prochaine réunion de son comité monétaire le 18 décembre, mais cela n'est pas garanti, et surtout la Fed est maintenant tentée, début 2025, de faire une pause dans ses réductions de taux. Le doute qui plane désormais sur la poursuite des baisses de taux l'an prochain représente un handicap pour les actions. L'euro remonte aujourd'hui à 1,0565, le pétrole américain recule à peine et reste proche de 69$. L'indice Dow Jones perd 0,3%, le Nasdaq cède 0,6%.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Vous souhaitez mieux comprendre et décrypter l'actualité? RFI vous donne la parole. Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction répond à vos questions. Rejoignez-nous dès maintenant au 33 9 693 693 70 par courrier électronique, appel au pluriel, .actu@rfi.fr et sur les réseaux sociaux.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Elle est née sur un voilier en plein océan, mais sa mère s'est enfuie avec elle encore bébé. Elle n'a jamais revu son père, qui a fait naufrage quelque temps après avec sa sœur. Cette histoire est celle de Virginia Tangvald, fille du célèbre navigateur. Une histoire folle qu'elle raconte dans son livre « Les enfants du large ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.